Bonjour et bienvenue dans Cogite Pop, ce petit labo d'éducation populaire en train de se faire. Deuxième épisode d'une série qui propose, comme outil politique pour muscler notre autodéfense intellectuelle, l'arpentage, ou plutôt le micro-arpentage, parce que nous avons 26 minutes, autant dire très très peu de temps pour s'emparer d'une citation et voir ce qu'elle nous fait à plusieurs. Alors pour le deuxième épisode de ce Cogite Pop, je suis non pas avec Seb, mais avec Jade de la Fougue. Salut Jade.
Salut.
Merci d'abord d'être ici et de te prêter au jeu. Pas facile parce que effectivement on a peu de temps, c'est un exercice un peu dangereux, mais allons-y. Jade, est-ce que tu peux rappeler simplement au départ ce qu'est la Fougue ?
Oui, tout à fait. La Fougue, c'est une asso qui existe depuis 2019, qui s'est montée dans l'idée de proposer des espaces, des moments pour réfléchir à plusieurs, pour expérimenter. Donc c'est une asso d'éducation populaire dans le sens où on s'éduque ensemble, donc on est tous et toutes détenteurs, détentrices d'expériences, de savoir, de savoir-faire, et on va les faire se confronter, se rencontrer, et voilà, produire des nouvelles idées, réfléchir, et tout ça dans l'idée de transformer la société, rien que ça.
Ouais,
c'est ambitieux.
il faut pas avoir peur, hein, d'avoir de l'audace, de l'ambition. Comme
oui,
ça.
Bon, alors, voilà, modestement.
Il y en a d'autres qui en ont pour nous et qui sont peut-être plus délétères, alors.
Exactement. Voilà, et donc tout ça, ça se passe sous différents formats. On propose des temps d'atelier, des stages plutôt sur 2 ou 3 jours, des événements culturels, des rencontres, des labos. Enfin voilà, toutes sortes de formats et toutes sortes de thématiques qui ont tous plus ou moins trait à, voilà, au fonctionnement de la société, à comment les humains, les humaines interagissent, les rapports de domination aussi, c'est un sujet qu'on vient de traiter, les rapports de domination systémique. Voilà, toutes sortes de choses est intéressante pour nous à décortiquer.
Et est-ce que vous utilisez cet outil qu'est l'arpentage ?
Eh ben oui, ça nous arrive, on trouve ça chouette, on l'utilise aussi de différentes manières, la plus classique. Donc c'est celle que Seb utilise aussi, je crois,
ouais,
c'est
si tu peux la, ouais, justement, la redéfinir.
Ouais, c'est ça. C'est un format qui dure environ 3 heures, donc pendant lequel un groupe de personnes se retrouve autour d'un ouvrage, donc souvent un ouvrage un peu ardu, qui peut un peu créer de l'appréhension, de la pensée qui semble complexe. Et du coup, à plusieurs, on va s'en emparer, physiquement déchirer le livre. C'est un peu le truc marrant et qui fait un peu bizarre. ça crée toujours un émoi dans l'assemblée. Et du coup, on divise ce document en autant de morceaux qu'il y a de personnes. Chaque personne a un temps de lecture, donc c'est souvent quelques pages. Donc c'est un temps solo, et après on va se retrouver et partager autour de ce que la lecture de notre morceau nous a fait. Il ne s'agit pas de résumer de manière exhaustive du tout. L'idée, c'est de vraiment s'approprier ce qu'on a lu, de voir comment ça fait écho avec notre vie, notre expérience, de voir ce que ça nous fait au niveau émotion, ce que ça nous donne envie de faire par la suite. Voilà, c'est un peu ça le principe. Mmh. Et de rebondir sur ce que les autres... ce que ça fait aux autres, de faire collectivement quelque chose d'une pensée.
Et donc, est-ce que la petite méthode qu'avait proposée la dernière fois Seb, alors il l'avait intitulée la méthode AIE, comme ce qui va aiguillonner un petit peu la pensée, A comme affect, d'abord ce que ça nous fait affectivement, les émotions que ça engendre en nous, puis I comme idée, l'idée force qu'on peut sortir de cet extrait, et E comme expérience, ce que ça peut faire évoluer dans notre pratique, dans notre expérience. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous utilisez?
Ouais, enfin, je connaissais pas la méthode AI telle qu'elle, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, oui, tout à fait. Enfin, nous, on dit d'abord de venir dire qu'est-ce qui m'a interpellée, donc plutôt les idées, qu'est-ce que ça me fait personnellement en termes d'émotions, et puis en effet plus sur l'après, qu'est-ce que ça vient toucher dans ma pratique, mon quotidien, et dans cette idée effectivement de peut-être transformer quelque chose de sa pratique à la suite de cette lecture ou de la discussion qui a lieu autour. Donc oui, ça ressemble pas mal, ouais.
Eh ben alors on va y aller, parce que tu es venu avec une petite citation. On l'écoute tout de suite.
Oui, alors la citation. citation que je vous ramène, c'est, ouvrez les guillemets, « Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. » Rien que ça. Et donc c'est Frederick Jameson qui a dit ça. C'est un penseur et critique littéraire américain qui est mort d'ailleurs le 22 septembre dernier. Je viens de l'apprendre en faisant mes recherches. Et voilà, c'est une citation que j'avais pas entendue dans sa bouche, mais dans la bouche d'un autre penseur, Yves Citon, qui lui réfléchit autour du pouvoir des imaginaires.
Mmh. Ouais, c'est ça, parce que c'est porteur. Alors, oui, c'est ça, c'est porteur d'un imaginaire. Enfin, je veux dire, ça engendre forcément, pour toutes et tous, de se réapproprier nos imaginaires. On va peut-être le faire dans l'autre sens.
Ouais.
La dernière fois, on avait commencé, donc c'est moi qui suis, encore une fois, hein, je le dis, complètement novice de l'éduc pop, de l'arpentage, qui avait commencé à dire bah voilà, ce que ça me faisait, à quoi ça me faisait réfléchir et comment ça allait modifier ma pratique. Et là, bah, on commence par toi.
Ouais, ça marche. Oui, et ben moi, j'ai choisi cette citation qui, quand je l'avais lu la première fois, m'avait un peu fait un électrochoc. Et bizarrement, qui me donne un peu d'espoir. Alors, je vais expliquer pourquoi, parce que sur le moment comme ça, elle fait plutôt un peu plombante, un peu défaitiste. Hein. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Bon, c'est pas hyper stimulant. Et pour moi, ça m'a fait un électrochoc au niveau de l'urgence à réhabiliter des imaginaires désirables, des utopies. Ça m'avait vraiment, comment dire, fait réaliser à quel point on est bercé, baigné dans une culture populaire qui nous invente tous les jours un nouveau scénario sur une fin du monde apocalyptique. Et donc ça, il n'y a aucun problème, tout le monde a son imaginaire, est en mesure d'avoir une idée de à quoi ça pourrait ressembler. Enfin, c'est très prégnant. Par contre, imaginer des futurs désirables dans lesquels, voilà, il y aurait plus toute cette compétitivité, du productivisme, l'exploitation du vivant, mais autre chose. Et ben, cette autre chose, on a du mal à l'imaginer. Et donc moi, émotionnellement, ça me heurte. Et après, ça vient me dire, mais ah, du coup, il y a peut-être un endroit de une marge de manœuvre. Voilà ce que ça me fait.
ce que ça te fait donc, voilà, émotionnellement.
Ouais. Mmh.
Pour moi, alors tu peux la redire une fois.
Ouais. Donc c'est il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Donc effectivement, moi, en choisissant cette citation, je pars aussi du principe que pour moi, il est souhaitable la fin du capitalisme, elle est souhaitable et nécessaire. Mais bon, ça c'est un point de vue.
Alors c'est peut-être dommage, mais je vais être un peu de ton avis. Enfin, de ton avis, c'est pas ton avis. Je partage tes émotions. en deux temps, c'est vrai que on entend fin du monde et l'imaginaire de fin du monde. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel on est bercé. Je redis un peu ce que t'as dit, mais c'est moi j'entends d'abord ça. Fin du monde, c'est quelque chose d'un peu
intense.
Ouais, intense, abrupt. Et puis il est plus facile, comme si c'était. On fait pas suffisamment d'efforts pour imaginer autre chose. Et donc ça vient aiguillonner un petit peu la volonté de dire « Ah bah oui, c'est vrai, peut-être que je m'endors un peu, moi aussi. Je m'endors et « Ah, c'est vrai, ça ouvre une perspective. Et si, voilà, quels imaginaires de... » Alors, tu as employé deux termes, ouais, désirable ou fin du capitalisme. Pour toi, pour qui la fin du capitalisme est précisément désirable? Pour moi aussi. Donc ouais, ça ouvre des perspectives. Ça vient décapsuler quelque chose.
Mm-mm. Ouais, tout à fait. Enfin, je partage effectivement ça. Et du coup, est-ce qu'on passe à la partie des idées?
Des idées?
Et ben ouais, c'est ça. Moi, ça m'en donne plein des idées quand je commence à me plonger dans ce que ça pourrait vouloir dire d'imaginer du coup autre chose qu'une fin du monde, mais une fin du capitalisme. ça me fait donc réaliser effectivement qu'on a des imaginaires un peu verrouillés, enfin je le vois comme ça, ou rouillés en tout cas, et tu l'as dit, ce truc d'effort, j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment de ça, que ça nous demande un effort d'imaginer ce que ça pourrait être, un futur qui soit autre que donc, le monde actuel et qui soit enviable, quoi. On n'est pas habitué à ça et j'ai l'impression que, enfin, du coup, dans l'idée d'imaginer des futurs, la fiction, la science-fiction, elle a beaucoup à nous apporter, mais que la tendance, quand même, dans ces univers, c'est plutôt d'aller vers des trucs encore plus dramatiques et catastrophistes. Et ça, c'est peut-être effectivement une facilité où notre esprit, ça lui demande pas beaucoup d'efforts, comme tu l'as dit, d'aller là-dedans. Et donc, comment on pourrait remuscler nos imaginaires pour les stimuler dans ce truc-là? C'est un peu ça que ça me fait me demander. Pour moi, du coup, il est question du désir de réautoriser nos imaginaires à aller du côté du désir et de s'autoriser aussi à reprendre le pouvoir sur des scénarios pour la suite. Enfin, ouais, ça me donne cette envie-là d'aller vers ça, et du coup, ça me fait me dire, ah, mais comment on fait ça?
Et comment on fait ça? Et alors, ce sera dans la troisième partie?
Je sais pas, oui. Ça peut modifier nos pratiques. Ça m'a fait penser ce truc-là aussi à Augusto Boal. C'est une personne qui a inventé le théâtre de l'opprimé, voilà, au Brésil, et qui, d'abord, donc, a proposé ce théâtre de l'opprimé à destination des paysans brésiliens. Et puis, il a dû s'exiler en France à un moment où le Brésil était... voilà, il y était plus bienvenu à cause de ce qu'il proposait. Et donc, en France, il a été frappé par le fait que... il a vu quelque chose de différent de ce qu'il constatait chez les gens au Brésil, où l'oppression, disons, elle venait de l'extérieur. Et en France, il s'est dit, mais les gens ont des flics dans la tête. Et c'est ce truc-là, ça me fait penser à ça, ce truc de se censurer, d'avoir un peu des œillères et de plus être capable de voir au-delà d'un imaginaire dominant qui nous limite.
Alors je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que justement j'étais en train de me dire oui, donc en termes d'idées, je me dis c'est vrai que on produit beaucoup, tu l'as dit, toutes les, que ce soit dans les romans, dans les séries, il y a beaucoup de dystopies. Il y a très peu d'utopie, mais c'est effectivement beaucoup de dystopie, de fin du monde, parce qu'il y a une fonction aussi de la peur qui vient nous prémunir peut-être de ce qui pourrait arriver de pire. Donc il y a une fonction quand même d'alarme qui peut être constructive. Mais j'ai l'impression que ça passe pas le pas, l'étape d'après, une fois qu'on a ou déconstruit ou détruit. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est assez vertigineux parce qu'on. Du coup, je me disais, mais sur quel socle on peut s'appuyer? Sauf que tu viens de me donner un élément de réponse. C'est que partout, il y a des choses qui existent et qui se font. Ce n'est pas un imaginaire ex nihilo, mais c'est un imaginaire que l'on construit, mais à partir d'expériences déjà menées, ici ou là, dans le temps et dans l'espace. Tu prends l'exemple au Brésil, voilà, de fonctionnements différents, mais les anthropologues aussi nous nourrissent de rapports, de pouvoirs, de relations complètement différentes avec les autres vivants, avec... Donc il y a là, je suis allée en deux temps. D'abord, prise de vertige, effectivement, de se dire très bien, on pense à après la déconstruction ou la destruction qui peut être une première étape nécessaire pour penser le monde, on imagine, mais à partir de quoi? Et donc là, c'est pas de rien, mais c'est d'expériences qui ont déjà été faites. Mmh. Tout, peut-être.
Peut-être, ouais.
Voilà, juste là tout de suite que ça me fait. C'est pas évident comme exercice d'être à la fois à l'écoute de toi en l'occurrence, en ayant en tête vous, les auditrices, les auditeurs, et en réfléchissant aussi pour soi-même et tout ça en quelques minutes.
Oui, c'est un vrai challenge.
Ouais, un vrai challenge. Allez, on essaie de voir ce que ça fait dans notre pratique.
Oui, tout à fait. Bah, moi, pour tout vous dire, si j'ai amené cette citation, c'est aussi parce que elle me trotte pas mal dans la tête en ce moment, parce que ça correspond à des choses qu'on propose à la fougue, cette idée de remuscler nos imaginaires vers des futurs qui soient plus enthousiasmants, dans lesquels on est capable de se projeter et d'avoir envie de vivre. C'est notamment voilà un atelier qu'on anime qui s'appelle le Labo Fiction et qui propose donc justement de se plonger dans un imaginaire, donc pour le coup post voilà chaos, on sait pas trop ce qui se passerait. L'idée c'est surtout pas de s'apesantir sur ce moment chaotique parce que voilà, ça a déjà été fait, mais plutôt d'imaginer l'après et de se dire on peut rebattre les cartes, qu'est-ce qu'on fait si on pouvait juste imaginer son quotidien. Donc c'est vraiment dans une idée non pas de faire un programme politique, mais plutôt vraiment d'imaginer quelque chose de très quotidien dans le vivre, s'habiller, se nourrir, se loger, enfin ça, voilà, tout ça, relationner, comment on a envie de faire si il y avait plus toutes sortes de contraintes qui sont là maintenant. Voilà, c'est d'abord il y a un imaginaire qui est posé un peu, qui dit voilà, il n'y a plus de système bancaire, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, il y a d'autres choses. Et puis, il y a tout ce dont chacune est faite, c'est-à-dire nos savoir-faire, ça, on les garde. Et donc, on repart de ça. Et donc, c'est presque un peu joué, comme le font les enfants, à dire « et si ?»
C'est ça.
Et voilà, et du coup, il y a cette première étape qui est un peu exaltante et qui peut donner un truc un peu bisounours. Mais après, on amène plein de nouveaux éléments pour dire « bah, comment justement ça se passe si dans ton univers il se passe quelque chose pour lequel il faudrait réimaginer une nouvelle justice, enfin venir quand même un peu amener de la complexité parce que voilà, quand il y a relation humaine il se passe toujours tout un tas de trucs imprévisibles et que c'est chouette aussi d'imaginer un peu au-delà du truc un peu ouais c'est ça, bisounours.
Je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que on n'a peut-être pas insisté sur le fait que l'imaginaire, c'est quelque chose qui infiltre toute la société. C'est pas un cadre hors du monde, c'est vraiment les imaginaires, c'est toutes nos représentations. On en oublie à quel point elles nous formatent, façonne, en tout cas, elles nous façonnent. Voilà. Et c'est vrai que c'est presque, j'ai déjà employé ce terme, mais vertigineux de se dire que là si on fait une expérience de pensée, qu'on se représente les choses différemment, alors d'autres choses s'ouvrent effectivement, parce que ça imprègne tout. Enfin, je l'ai pas dit suffisamment à quel point l'imaginaire est essentiel. L'imaginaire fait partie de la réalité. Voilà, elle vient nourrir, fertiliser la réalité.
Oui, absolument. C'est effectivement assez impressionnant quand on se penche un peu là-dessus de voir à quel point. Oui, alors qu'on a l'impression d'être complètement en capacité d'aller vers là où on veut et d'avoir accès à des possibles, en fait, ils sont quand même biaisés du fait de ce qui nous entoure, notre environnement, ce qui nous est proposé, l'audiovisuel, tout ça. Tout ça, effectivement, ça vient, tu l'as dit, façonner nos imaginaires, effectivement. Oui, du coup, j'avais hésité avec une autre citation qui dit « Les récits pré-scénarisent les comportements », et ça vient un peu dire ça. Oui. Et que c'est pour ça qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, parce qu'en fait, les récits qui nous entourent, en tout cas, quand on est un peu, on a une conscience un peu écolo, ou qu'on, voilà, on fait ce constat de changement climatique, tout ça, on a une grande facilité à se dire que c'est quand même mal barré, tout ça. Mais du coup, d'avoir accès à d'autres imaginaires, encore une fois ce mot, ça réouvre un peu, ça redonne un peu de la respiration, d'oxygène, quoi, pour venir se dire « Ah, mais de quoi j'aurais envie s'il n'y avait plus toutes ces choses qui viennent me polluer ?»
Et oui, et ça vient encore une fois, renouveler le désir. Le désir, c'est vraiment, je pense, quelque chose. Enfin, c'est notre source de motivation, notre source de vie, en fait, le désir. Et se réapproprier ça, c'est incroyable. C'est même. Ça fait un peu peur, quoi. Ça. Alors, s'agissant de l'expérience, donc, qu'est-ce que ça peut me faire en termes d'expérience ? Moi, j'ai surtout une question, c'est je me dis comment on peut arriver à transformer cette expérience, mais collectivement, parce que un imaginaire, ça se partage. Je veux dire, pour vivre dedans et avoir des interactions, que ce soit bien compris, ou alors il faut donner son mode d'emploi, ou simplement petit à petit soi-même. Je pense, alors je sais pas, peut-être que c'est complètement hors sujet, mais l'imaginaire, il y a quelque chose dans, justement, un des imaginaires du capitalisme, c'est que c'est vraiment chacun pour sa gueule, chacun pour soi. Les gens sont nuls, les gens ne pensent qu'à eux, ils sont égoïstes. Mais je me rends compte que dans la rue, quand on croise quelqu'un, qu'on lui dit bonjour avec un sourire, cette personne dit bonjour et sourit la plupart du temps. Et je me dis, ça c'est vraiment un tout petit exemple d'une imprégnation justement des représentations, des imaginaires, de se dire, tiens, et si, bah voilà, je considérais l'autre comme une autre personne, et que c'était chouette, et que c'est pas quelqu'un qui va forcément vouloir me piquer mon sac à main, si j'en avais un, ou me piquer mon vélo. Ah, malheureusement, je recherche toujours mon vélo, mais j'ai encore de l'espoir. mais voilà, de provoquer. Donc je pose une question et j'y réponds un petit peu, peut-être.
Mais oui, cette idée, effectivement, de peut-être pas partir du principe que la méfiance devrait être l'état d'esprit par lequel interagir avec le monde et tester un truc un peu plus ouvert.
C'est ça. Mais surtout penser qu'en fait les autres sont les autres, ce sont les autres qui vont faire en sorte que effectivement je suis méfiante. Bah non. Modifions juste, voilà, enfin le fait simplement de sourire sans forcément être bisounours, mais je pense vraiment c'est une expérience que je fais de tous les jours, quoi.
Ouais.
Et voilà, et j'ai pas le même vécu que beaucoup de gens qui me disent les gens sont vraiment, les gens sont nuls en ce moment, aujourd'hui, dans ce monde, dans notre monde gris.
Oui, bah là aussi peut-être du coup on parle de récits, mais les récits médiatiques ils sont aussi hyper je sais pas si on doit dire responsables, mais en tout cas ils participent,
ils entretiennent complètement
cette idée, oui, ces idées sur comment sont les gens. Bah, si on nous raconte qu'ils sont comme ci ou comme ça, on va partir de ce principe là
On aurait peut-être encore d'autres choses à dire. On arrive à la fin de cette émission.
Oui, déjà.
Mais ouais. Rappelle la citation.
Oui, donc la citation, c'était « Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme ».
Et on dit aussi, puisque cette émission qui est préenregistrée sera diffusée le 8 décembre et deux dimanches après. Donc si vous écoutez cette émission le 8 décembre, c'est vraiment un coup du sort, parce que tu ne savais pas du tout, mais vous pouvez, si cette question vous intéresse, vous diriger à la cantine Pop, c'est ça ?
C'est ça, oui, parce que le 8 décembre, c'est aussi le jour où on célébrera les 5 ans de notre asso, la Fougue, et donc dans ce cadre-là, on proposera dans un premier temps, donc à 11h, un labo fiction, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de 11h à 16h. Et puis à 16h30, une petite boum, un goûter festif. Et donc c'est ouvert à tout le monde et voilà, c'est l'occasion de célébrer cet anniversaire et puis de soutenir notre asso.
Une boum un dimanche à 16h30, voilà un imaginaire désirable. On n'est pas obligé de se bourrer la gueule à partir de 2h du matin uniquement. Mais oui. Ok, super. Bon, ça évidemment, ça ne vaut que pour les auditrices auditeurs qui écoutent cette émission. Le 8 décembre à 11h, pour ce qui est de 17h ou de l'autre dimanche, bah, pas de bol. Enfin, j'espère que ça vous aura ouvert justement peut-être d'autres perspectives. Merci beaucoup, Jade, de t'être prêtée au jeu.
Merci pour l'invitation.
Et puis, bah, peut-être à bientôt, tu reviendras.
Pourquoi pas. Je me ferai surprendre par une citation à mon tour.
Ouais. Super. Bah, merci beaucoup.